おかしいおかしい、
Si vous invitez ce matin dans l'émission Dialogue en son congolais avec Claude Chang à la présentation.
Bonsoir, c'était à Dialogue entre Congolais, Godefroy Mayobo, ministre auprès du Premier ministre, répond aux questions des auditeurs de Radio Capi après la publication du rapport sur le détournement de plus d'un milliard de dollars américains dans trois régies financières et dans un échantillon de six entreprises publiques. Toutes ces informations ont été livrées par le ministre Godefroy Mayobo. C'était au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa le mardi 22 juillet dernier. Quelles sont les personnes citées dans ce rapport et comment s'est passé ce détournement? Comment le gouvernement compte-t-il faire face à la fonte sociale actuelle après de tels détournements? Et comment le gouvernement congolais compte-t-il récupérer l'argent et les biens détournés? Ce sont là les principales questions de l'émission de ce soir. Vous êtes très intéressés par le thème de ce soir, vous nos auditeurs, car vous avez été très nombreux à réagir et voici quelques-unes de vos réactions. Ce sont les mêmes déclarations qu'il y a 4 ans et personne n'a jamais été poursuivi. Courage, monsieur le ministre, tenez bon. Réaction signée Saïdi, sans préciser d'où il nous écrit. Christian Niemwe et Wetemwami de Kananga Plateau Occidental veulent savoir si ces gens seront poursuivis ou pas et quelle est la sanction qui leur sera réservée. Enfin, Gustave Niembo, voilà voilà de Kindu Maniema, se dit indigné de constater que les assassins sont poursuivis juste après leur acte, mais pourquoi ne pas aussi le faire pour ceux qui détournent? N'y a-t-il pas un complot entre les coupables et les autorités compétentes? S'interroge cet auditeur. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons ce soir un seul invité, Godefroy Mayobo, ministre après le Premier ministre, un invité unique.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé le détournement de plus d'un milliard 300 millions de dollars américains, ceci au terme d'un audit mené auprès des régies financières et dans quelques entreprises publiques. Deux commissions interministérielles avaient été mises en place pour effectuer ce travail. Notre consoeur Kéline Couté revient sur les grandes lignes de ce rapport.
Cet audit a porté sur trois régies financières et six entreprises publiques. Il s'agit de la Direction générale des impôts DGI, de la Direction générale des recettes administratives et domaniales des GERAD, de l'Office de douane et assises OCIDA, de l'Office national de transport ONATRA, de l'Office congolais de contrôle OCC, de la Régie des eaux, de la Société nationale d'électricité SNEL, de la Société nationale des assurances TONAS et de la Régie des voies aériennes RVA. Il ressort de ce constat d'une année de travail qu'un détournement monstre de l'ordre de plus d'un milliard 300 millions de dollars américains a été opéré au sein des entreprises précitées. Ce travail s'est étendu dans la période allant de janvier 2006 à juillet 2007. Quant à la commission des récupérations des immeubles et terrains de l'État, le ministre Mayobo affirme que 94 terrains dans le domaine privé de l'État et une quarantaine de dossiers dans le domaine public sont concernés. Au total, 153 dossiers que les instances judiciaires doivent instruire. Le ministre Mayobo a confirmé que ses collègues des finances et du portefeuille mènent déjà des actions disciplinaires d'une part et de remboursement d'autre part à l'encontre des 53 personnes reconnues coupables de ces indélicatesses. Le ministre près le Premier ministre a souligné que le ministre de la Justice a déjà déposé au parquet général de la République les dossiers des 17 personnes physiques et 10 personnes morales impliquées dans ce dossier. À ce jour, 47 de ces dossiers sont déjà finalisés et en instance de présentation au Conseil des ministres.
Bonsoir, M. Godefroy Mayobo.
Bonsoir, M. Kiranza.
Vous êtes ministre auprès du Premier ministre. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi le porte-parole du Premier ministre?
Affirmatif.
Voilà, donc vous venez de suivre avec moi et avec les auditeurs également le condensé du travail des deux commissions interministérielles mises en place justement par le gouvernement. Quelles sont les personnes citées, les personnes physiques et morales dans cet audit?
À ce niveau de la publication des résultats du travail des...
Si vous pouvez vous approcher du micro.
Merci. À ce niveau, disais-je, de la publication des résultats, notamment de la commission interministérielle d'audit et de bonne gouvernance, CABG, le respect du principe de la présomption d'innocence implique que nous ne puissions pas citer des noms. Au niveau des administrations qui devaient interpeller ceux qui avaient commis des fautes ou qui étaient soupçonné d'avoir commis des fautes administratives. On va le savoir, on peut le savoir de ce côté-là, parce que des procédures disciplinaires ont été engagées, et ce n'est qu'à l'issue de la conclusion de ces procédures qu'on peut alors citer les noms, parce que sinon, vous pouvez citer quelqu'un qui n'est pas coupable et après devoir payer des lourdes amendes, des dommages intérêts. Et du côté de la justice, là, il faut encore être plus strict, étant donné d'ailleurs que la justice est un pouvoir séparé de l'exécutif, il y a lieu de laisser ce pouvoir faire son travail selon ses propres règles, ses propres procédures, et la Constitution et les principes universellement admis dans des états de droit prescrivent que jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu, même les accusés doivent être considérés comme innocents. Donc, à ce niveau, nous ne pouvons pas citer des noms, mais, comme on vous dit, des dossiers ont été transmis. Et c'est dans les dossiers que se trouvent les noms en question.
Et avec les procédures disciplinaires, comme vous venez de le dire, c'est au niveau des entreprises ou à quel niveau?
Essentiellement au niveau des entreprises, parce que les gestionnaires qui ont été incriminés, c'est par rapport à leur gestion dans les entreprises. Donc c'est à ce niveau-là qu'ils doivent pouvoir répondre s'ils sont encore là. Et pour certains, lorsqu'ils ne sont plus en fonction, évidemment, ils ont été interpellés par le ministère du portefeuille qui les a mis en demeure de restituer ce qui a été pris de manière indue. Et des délais leur ont été accordés. Et après ces délais, faute de s'exécuter, évidemment, on passe à une autre étape. On passe à la réclamation en recourant éventuellement à la justice.
Monsieur le ministre Godefroy Mayobo, plus d'un milliard de dollars américains détournés, c'est quand même beaucoup dans un pays qui dit manquer de moyens financiers. Pouvez-vous un peu nous expliquer avec quelques petits détails par quel mécanisme ces détournements se sont passés?
Précisons tout de suite, et nous l'avions dit lors de notre point de presse, ce n'est pas 1 milliard 300 millions de dollars détournés, mais détournés ou manque à gagner.
La différence, c'est quoi?
La différence, c'est ceci. Par exemple, lorsque quelqu'un qui doit à l'État au titre d'une taxe ou bien d'un impôt ne paye pas, c'est consigné dans les documents de réclamation, mais on ne réclame pas. Vous ne pouvez pas formellement accuser les responsables du service de perception d'avoir mis ça dans sa poche pour dire qu'il y a détournement. Mais vous pouvez néanmoins lui reprocher d'avoir fait rater à la caisse de l'État quelque chose qui revient à celle-ci. Et vous savez d'ailleurs, en dessous d'une telle négligence, on est toujours en droit de soupçonner d'autres attitudes, de se demander pourquoi on a oublié de demander, pourquoi on n'a pas chercher à récupérer. Pourquoi même après qu'on ait révélé le fait, il n'y a aucune démarche pour rétablir l'État dans ses droits? Ça, c'est le manque à gagner, qui peut se terminer au niveau de la justice aussi par des poursuites en termes de complicité dans des détournements d'une certaine façon. Parce que si la justice établit que la négligence est volontaire pour que l'État ne rentre pas dans ses droits moyennant paiement des sous de table pour que cette revendication de l'État légitime ne soit pas formulée, alors là la justice va passer d'un constat de manque à gagner à une complicité. Donc ça devient quelque chose d'une infraction pénale et qui peut être poursuivi par elle. Donc, pour le moment, par rapport au constat, parce que l'audit s'est basé essentiellement sur des constats constat fait à base des documents. Et ce constat indique qu'il y a, par exemple, des souscriptions qui ne sont pas suivies des paiements. Par exemple, des cas où des pénalités doivent être appliquées, mais on ne les applique pas. Par exemple, on a apuré des comptes sans preuve de paiement. Par exemple, on a appliqué de manière erronée des taux d'imposition, etc., etc. Donc ça, ce sont des éléments qui indiquent à l'audit qu'il y a quelque chose d'irrégulier et dans un premier temps, par rapport au constat, ça peut être classifié comme manque à gagner. L'instruction ultérieure peut indiquer d'autres aspects cachés qui ont un caractère pénal et un caractère infractionnel plus grave. Et les détournements, c'est clair lorsque, par exemple, nous avons des gens qui enregistrent partiellement des colis qui arrivent, par exemple. S'il y a des gens qui perçoivent par colis qui arrivent de l'extérieur un montant, et on ne trouve pas les traces du versement de ce montant à la caisse. Ça, ce sont des détournements. Voilà, à titre exemplatif, la différenciation que nous pouvons faire entre les deux catégories de constats. Mais répétons encore que le manque à gagner dans un approfondissement de l'enquête peut se terminer par une infraction de détournement ou de complicité de détournement ou de complicité de fraude.
Monsieur le ministre Mayobo, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ministre près le premier ministre et porte-parole donc du premier ministre. Nous avons essayé de faire notre petit calcul ici, 1,3 milliard de dollars américains détournés en une année, donc c'est plus ou moins 100 millions de dollars détournés par mois et c'est plus ou moins 3 millions de dollars par jour. Je ne suis pas tellement satisfait par votre réponse, mais comment ça s'est fait, de façon brève, comment se sont passés ces détournements?
Mais si vous voulez, détournements et manque à gagner.
Et manque à gagner.
Alors, je peux vous donner
de façon brève,
oui, la liste des actes par lesquels les auditeurs ont constaté ces faits. Souscription non suivie des paiements.
Parlez devant le micro, s'il vous plaît.
Non oui. Application des pénalités. Apurement des comptes courants fiscaux sans preuve de paiement. Souscription reçue à l'accueil mais non enregistrée. Souscription volontaire non payée. Application erronée des taux d'imposition. Redressement clôturé non suivi des prises en charge ni d'avis de mise en recouvrement. Absence de poursuite. Étalement accordé de manière indue. Dégrèvement irrégulier accordé. Exonération accordée sans preuve. Disparition des unités informatiques relatives aux recettes domaniales. Non-recouvrement des notes de perception issues. Mauvaise gestion des imprimés de valeur. Régularisation tardive des enlèvements d'urgence non suivis de pénalités. Sous-évaluation des valeurs. Perception des taxes par colis venus de l'extérieur sans remise de quittance. Sortie frauduleuse des colis, enregistrement partiel ou disparition des manifestes reçus. Voilà, ce sont des séries d'actes constatés.
En gros, parce que c'est technique, hein. Est-ce qu'on peut qualifier ça de vol? C'est du vol?
Dans certains cas, c'est des détournements. Quand quelqu'un perçoit des taxes, des colis venus de l'extérieur, et il ne verse pas la caisse, c'est des détournements, c'est du vol. Mais quand quelqu'un oublie d'aller recouvrer ce qui est dû à l'État. C'est un manque à gagner. Mais il faut approfondir pour savoir pourquoi il a oublié.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Plusieurs auditeurs sont aussi intéressés au thème de ce soir, car à l'heure actuelle, nous avons déjà reçu près de 150 réactions donc avant cette émission. Suivant les questions de deux habitants de Kinshasa qui vous sont destinées, Monsieur Mayobo, propos recueillis par notre confrère Jean-Didier Ogobani.
Je suis un citoyen de Kinshasa, j'habite à Matete. Je sais que le ministre près du premier ministre, M. Mayobo, a donné comme déclaration par rapport au détournement. J'aimerais qu'il me donne des précisions parce qu'il y a une enquête qui a été effectuée, mais nous voulons qu'on nous donne des précisions et qu'on nous cite nommément les personnes qui sont impliquées ou les personnes inculpées pour que l'opinion soit
Je crois que vous venez de suivre ces deux habitants de Kinshasa,
vous avez déjà répondu à la première question sur la situation des personnes impliquées, mais il y a la deuxième personne qui voulait savoir où est allé tout cet argent, parce que c'est quand même énorme.
Mais je ne suis pas avec ceux qui ont été responsables de ces manques à gagner.
Excusez-moi, c'est presque la moitié du budget du Congo.
Tout à fait, et c'est regrettable et c'est triste. Je ne suis pas avec ceux qui sont responsables de tout ce qui est reproché là. Alors, comment voulez-vous que je sache où est-ce qu'ils ont mis ça et pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. C'est la justice ou la procédure disciplinaire qui vont nous établir ces choses-là. Ce n'est pas, moi, je ne sais pas vous répondre, sinon ça voudrait dire que j'étais avec eux et je savais pourquoi et quand ils faisaient ça et où est-ce qu'ils destinaient les produits de ces actes.
Mais est-ce que le travail d'audit continue dans certaines entreprises, par exemple la Banque Centrale, pourquoi n'a-t-elle pas aussi été auditée?
Donc la Banque Centrale a déjà été auditée par des institutions, disons des organisations qui avaient été commises à cet effet-là, je crois avec la participation ou la surveillance même des institutions financières internationales. L'audit, c'est une opération normale dans une gestion qui veut être de bonne gouvernance. Donc, mais ça ne veut pas dire non plus que l'audit va se faire chaque jour. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un moment, on fait l'audit, on tire les conclusions. Vous savez que d'abord, dépouiller les documents, ça prend du temps. Il faut analyser, tirer les conclusions, faire aboutir la procédure de correction, et puis alors entreprendre un nouveau cycle. Mais il n'y a pas que 6 entreprises publiques ou 3 régies financières, il y a plein d'activités liées à la vie de l'État qu'il faut absolument contrôler pour, en fait, le but premier de l'audit, ce n'est pas une chasse à l'homme, c'est faire en sorte que la gestion soit orthodoxe, se fasse convenablement et de manière que ce qui est destiné à l'État, ce qui est destiné au fonctionnement de la nation, y aille effectivement et ne soit pas soit détourné, soit négligé, soit perdu indûment. Voilà. L'audit, donc, c'est une opération qui va continuer, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire l'audit chaque jour, parce qu'il faut envoyer des équipes en mission, il faut des budgets pour ça, il faut aussi leur donner le temps de se ressourcer, de préparer d'autres missions, mais soyez sûrs, et ça c'est une détermination du président de la République et du Premier ministre, dans leurs efforts de rétablir la bonne gouvernance, c'est on gère à toute responsabilité et on doit accepter d'être contrôlé, parce que c'est ça l'audit.
Je rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous prendre en cours que Dialogue entre Congolais reçoit aujourd'hui le ministre après le Premier ministre, Godefroy Mayobo, qui répond aux questions des auditeurs de Radio Kapi après la publication du rapport sur les détournements de plus d'un milliard de dollars américains dans 3 régies financières et dans un échantillon de 6 entreprises publiques. C'est le ministre, mais le cabinet qui a audité est un service du gouvernement. Et est-ce que le gouvernement est bien placé? Vous n'êtes pas un peu juge et parti. Je donne un exemple. Si votre nom figurait sur la liste établie par ce cabinet d'audit, est-ce que la commission allait publier ce nom?
Oui, bien sûr, parce que si mon nom figurait, sûrement que je ne serais pas seul. J'aurais agi avec d'autres personnes et soustraire mon nom obligerait donc les auditeurs à soustraire aussi les noms de tous les autres.
Et pourquoi ne pas avoir laissé cette tâche-là à un cabinet d'audit privé?
L'État a aussi dans ses missions celle de contrôler. On ne peut pas lui refuser. vous ne pouvez pas demander pourquoi l'État a une inspection générale des finances. Justement, l'inspection générale des finances est là, la Cour des comptes est là, mais voilà. Pourquoi autant de détournements, autant d'argent détourné? Est-ce que c'est de la complaisance que font tous ces services ou quoi? Mais jusqu'à présent, nous tous, nous nous sommes plaints de la manière dont notre pays marchait. C'est clair. Et ça veut dire que beaucoup de ces structures ne fonctionnaient pas comme il fallait, comme nous l'aurions souhaité. Et après les élections, après l'installation de, du régime actuel, un des défis, une des promesses faites, c'était de gouverner désormais d'une bonne façon, d'une manière orthodoxe. Alors pour cela, il fallait mettre en place des instruments, soit créer de nouveaux instruments, soit renforcer les anciens instruments, les booster, comme on dit en anglais, donc les redynamiser, pour qu'on atteigne cet objectif qui est vital pour que le pays avance, marche. Parce qu'un pays dans lequel il n'y a que des déperditions de ressources ne sait pas réaliser un programme quelconque. Donc, c'est tout à fait normal que l'État, qui a dans ses missions aussi de contrôler ses propres structures, puisse réaliser les audits avec ses propres structures qu'il a déjà mis en place, qui ont été cette fois renforcées par une présence ministérielle dans cette commission interministérielle d'audit et de bonne gouvernance, où on retrouve des experts, des spécialistes, des professionnels de l'audit, de l'inspection des finances et de la Cour des comptes. Mais vous avez...
Et là, quand même, ils sont mis en compte parce que $1 milliard ont été détournés sans que ces inspecteurs et la Cour des comptes ne s'en rendent compte quand même.
Mais ils ne sont pas des policiers qui sont en permanence là devant des gens qui font le papier.
Mais c'est leur travail.
Nous aurions souhaité, évidemment, que la surveillance soit instantanée pour empêcher. L'idéal, c'est la prévention, que quelqu'un ne puisse pas voler. Mais malheureusement, tel que les choses marchent, généralement, les constats se font a posteriori. Donc, ne les reprochez pas de venir découvrir qu'on avait déjà volé, parce que sinon, alors, ils doivent être à côté de ceux qui passent les écritures, qui font les... Ce n'est pas possible. Donc, nécessairement, l'audit vient après les actes qui ont été posés. Ne trouvez pas ça normal, c'est ça la logique des choses.
Non, monsieur le ministre Mayobo, je rappelle que vous êtes ministre après le Premier ministre, porte-parole du gouvernement, du Premier ministre, excusez-moi, il y a aussi la fonte sociale, les médecins sont en grève, les syndicats des enseignants des écoles catholiques déclarent ne pas être disposés pour la rentrée scolaire prochaine, ceux du CIECO disent que la rentrée scolaire 2008-2009 est hypothétique. Comment le gouvernement compte-t-il faire face à tout cela? Vous dites qu'il n'y a pas d'argent, alors que $1 milliard ont été détournés.
Ce n'est pas le gouvernement qui a détourné les $1,3 milliard. Ce sont des agents...
C'est qu'il y a beaucoup d'argent quand même dans ce pays.
Ce sont des... Ah oui, il n'y a pas beaucoup, mais en fait, il y a de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup. Eh bien, il ne faut pas, déjà, ce n'est pas beaucoup, aller enlever encore une partie.
Mais de l'argent qui peut mettre fin à cette fonds sociale.
Donc, vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement a bien fait d'installer ces instruments qui vont désormais empêcher une telle fuite massive des ressources qui, en fait, au fond, retarde le progrès de la nation. Alors, vous m'aviez posé la question comment on entend faire face
à la
fonde sociale. Non, ce n'est pas une fonde sociale. C'est
quoi alors?
Ce sont des expressions d'une vie normale dans une nation.
Et ils ne sont pas bien payés, ils n'arrivent pas à donner le coup.
Non, ils ont été payés. Il ne faut pas dire qu'ils
n'ont pas bien payé.
Ça, c'est autre chose. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été bien payés.
Et puis, excusez-moi, monsieur le ministre, il y a aussi des salaires qui n'arrivent pas. Tel est le cas, par exemple, dans l'Équateur, où le salaire des enseignants d'Ikela, leur salaire du mois de juin 2008, a disparu entre Bokungu et Ikela.
Mais ce n'est pas une politique du gouvernement qui a dit que le salaire de Ikela disparaisse. C'est le fait de quelques agents ou des dysfonctionnements. C'est pour ça que ce serait grave si le gouvernement trouvait ça normal. Mais le gouvernement s'emploie à corriger ça, à faire en sorte que là où il y a ces dysfonctionnements, là où les salaires n'arrivent pas, que désormais on améliore le système pour que chacun, tous, même les petits dit qui doit lui revenir. Alors, avec quoi allons-nous faire face? Mais par une deux méthodes, le peu que le gouvernement a, qui n'est pas parti, et le dialogue. La grève ne veut pas dire rupture. La grève ne veut pas dire conflit. La grève veut dire expression d'une réclamation.
Mais dans l'entretien, dans les hôpitaux, les gens meurent.
Mais ça, ils sont passés à l'étape derrière. Ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est eux qui ont décidé. Mais ça ne veut pas dire non plus que le gouvernement doit, pour cela, considérer qu'il y a une déclaration de guerre. Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une revendication. Et d'ailleurs, quelque part, le gouvernement peut se flatter du fait que lorsque les gens revendiquent, c'est qu'ils ont trouvé un répondant. Quand il n'y a pas de répondant, ils ne revendiquent pas. S'ils ne vous prennent pas au sérieux, ils pensent qu'avec vous, on ne peut avoir aucune solution. Ils ne revendiqueront pas.
Mais avec quelles conséquences?
Pour la population, c'est toujours douloureux, c'est toujours malheureux, mais c'est ça le principe de la revendication des travailleurs. Généralement, pour monter la pression, ils doivent appuyer sur une activité dont la carence fait ressortir l'obligation d'aller vite au dialogue, de trouver des solutions.
Mais la rentrée scolaire, c'est dans deux semaines. Les enseignants disent que le premier palier de Mougui n'a toujours pas été payé, alors que près d'un milliard de dollars ont été détournés, qui pouvaient peut-être résoudre leurs problèmes.
Comment allez-vous faire face? Vous y revenez comme si c'est le gouvernement qui a détourné. Non, c'est pas les
jeunes, je ne l'ai pas dit.
Donc, vous répétez quelque chose qui montre que vraiment le gouvernement a raison de poursuivre ces gens face à une telle demande. C'est 1,3 milliard aurait servi à beaucoup, à soulager beaucoup. Mais vous devez savoir que les besoins de l'homme sont illimités. Même quand les gens auront atteint 3 000 $, 4 000 $ de salaire par mois, ça n'empêchera pas qu'ils continuent à revendiquer, puisque l'amélioration n'a pas d'effet. Alors, nous allons continuer à travailler avec nos partenaires, les enseignants, les médecins. On est déjà en dialogue avec eux. Comme David,
ils ne semblent pas vous croire.
Non, il faut pas qu'on dise ça. Ils nous croient parce que les chiffres parlent.
Des promesses sont tenues d'abord.
Des promesses sont tenues. Peut-être pas toujours de la façon qu'ils auraient voulu. Mais nous aussi, nous sommes limités par les moyens qui sont les nôtres. Donc, généralement, d'ailleurs, comme ils sont des gens plein de bon sens, quand certains chiffres leur sont livrés, ils revoient leur propre position qui était parfois très radicale. Parce que ce sont des gens qui sont très sensés. Les médecins, ce sont des gens très instruits, ils comprennent très vite. Mais lorsqu'ils se rendent compte que ce n'est pas de mauvais espoir, c'est parce que nous sommes limités. Les ressources de notre pays sont limitées. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire nous disposons de 10 milliards, 20 milliards. Alors, c'est avec ce que nous avons que nous essayons de satisfaire toute la multitude des besoins du pays.
Il n'y a pas que les habitants de Kinshasa qui ont réagi. Souvent, c'est une question qui nous vient de Mouzma et au Kasaï oriental. Question recueillie par notre confrère François Tibenji de notre rédaction de Mouzma.
David Kabongo de Mouzma. Monsieur Godefroy Mahebo, vous aviez dénoncé le détournement de l'argent de l'État par les mandataires de l'État. Pourquoi avoir attendu longtemps pour dénoncer ce problème? Cet argent est détourné, c'est un gros montant qui pouvait aider. Nous sommes pratiquement à la veille de la rentrée scolaire. Il y a les enseignants au niveau des syndicats qui menacent de la grève. Cet argent pouvait les aider. Pourquoi avoir laissé que l'argent se détourne alors que vous savez qu'il y a des problèmes sociaux qui nous attendent quand nous sommes à la veille de la rentrée scolaire? Une autre question que je veux poser, c'est que ces gens, vous les avez dénoncés. Jusque-là, on ne connaît pas l'identité.
Et c'est Godefroy Mahebo. Oui, pour la dernière partie de la question, j'ai répondu. Je répète que lorsque un audit se termine, lorsque des actions sont engagées, cela n'enfreint en rien le principe de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un jugement puisse être prononcé par les organes habilités. Il n'est pas autorisé à l'exécutif de prononcer des jugements. C'est le pouvoir judiciaire qui prononce des jugements. Donc nous avons déposé les dossiers. Le pouvoir judiciaire, selon ses propres procédures, prendra le temps nécessaire pour instruire, pour que, comme on dit, il vaut mieux laisser courir 10 coupables que de condamner un seul innocent. Donc il vaut mieux que ceux qui vont être condamnés soient véritablement des coupables au lieu qu'on fasse les choses à la. Alors,
Pour
la première partie, il ne faut pas dire que nous avons laissé les enfants. Non. Le gouvernement a commencé en 2007, en mars, et on vous a dit que l'audit a porté sur janvier 2006, juillet 2007. Donc, il ne faut pas dire que nous avons laissé les gens voler et puis venir dénoncer après. Deuxièmement, un audit, ce n'est pas une opération instantanée. Il faut une mission, il faut le temps. Vous savez le nombre de documents qu'il faut déployer. Vous pouvez arriver à ce qu'un auditeur soit obligé, dans une mission comme ça, de lire plus de 10 000 pages. Et puis, il doit compulser, il doit comparer, il doit faire des rapprochements pour aller parfois découvrir des choses qui sont. Ce n'est pas évident que vous arrivez et vous trouvez là immédiatement la preuve qu'on a volé. Non. Les voleurs ou les détourneurs, souvent, ils sont malins, ils camouflent et il faut aller parfois les débusquer. Donc, ça prend du temps. Et d'abord, la mission, la lecture des documents, la confrontation, les auditions, avant de venir conclure la mission, tirer, disons, faire la synthèse et livrer ses conclusions aux autorités.
Mais monsieur le ministre, selon nos sources, si vous n'êtes pas parvenu à publier les noms de certaines personnes, il semble que c'est parce que les noms de certains membres des institutions actuelles figurent dans ce rapport de guide. Pouvez-vous nous le confirmer?
Non, nous n'avons pas publié par respect du principe de présomption d'innocence. Voilà, je répète, du côté administratif, on a dit aux administrations. La ministre du portefeuille a chargé les entreprises concernées ou les organisations concernées d'ouvrir des actions disciplinaires. Mais tant qu'elles ne sont pas clôturées, comment voulez-vous qu'on se mette à livrer des noms des gens comme ça? Parce que vous savez que généralement l'opinion ne fait pas dans les détails. Souvent, c'est le nom qui est livré même avec des conditionnels et des points d'exclamation, comme on voit parfois dans certains journaux, mais il y a des gens qui n'ont pas le sens affiné d'aller dire qu'il y avait un conditionnel. Pour lui, c'est établi. Alors, l'honneur des gens, la dignité des gens, le minimum de sécurité qu'il faut garantir, et même à un présumé coupable, implique que nous ne puissions pas donner les noms jusqu'à ce que la procédure soit clôturée. Quant au côté judiciaire, c'est même un impératif. Un impératif de la justice, on ne peut pas donner un nom tant qu'un jugement n'est pas tombé. C'est la justice elle-même qui va d'ailleurs rendre public le nom de ceux qui seront reconnus comme coupables.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Avant de poursuivre cette émission, suivez d'abord le rappel de nos contacts et nous poursuivrons ensuite cette émission.
Dialogue au Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Monsieur le ministre Godefroy Mayobo, comment le gouvernement congolais compte-t-il alors récupérer cet argent et les biens détournés, puisque les actions sont déjà en justice?
Tout justement, nous vous avons dit, du côté administratif, c'est des actions disciplinaires, des mises en demeure, et en cas d'entêtement, des refus, c'est recours à la justice. Nous voulons bâtir un état de droit. Dans un état de droit, on ne se fait pas justice soi-même et on recourt à l'organe approprié, qui est le pouvoir judiciaire. Donc, si la mise en demeure des restitutions n'est pas écoutée par ceux qui ont été interpellés,
ça signifie quoi?
Par exemple, quelqu'un s'est payé des pécules de congés, des indemnités de congés trois fois en une année. Alors, on lui dit de restituer, de rembourser. S'il ne rembourse pas, on va recourir à la justice pour remettre l'État dans ses droits. Du côté de la justice, nous espérons que la procédure suivra son cours et ceux qui seront reconnus coupables vont devoir être sanctionnés. Et parmi les sanctions, nous pensons qu'il y a nécessairement la restitution.
Mais les dossiers au niveau de la justice, parce que j'ai votre mot de circonstance du 22 juillet dernier, vous dites que ces mesures concernent 53 personnes. De son côté, le ministre de la Justice a transmis au parquet général pour instruction et inculpation, le cas échéant, les dossiers de 17 personnes physiques et 10 personnes morales. Et il y a aussi 153 dossiers dans le domaine des biens meubles et immeubles de l'État. À quel niveau se trouve ce dossier? Est-ce qu'on approche d'un procès concernant...
Distinguons le côté immeuble et terrain de l'État.
Ouais.
Du côté des finances. Là.
Tout à fait.
Bon, du côté des finances, effectivement, 53 personnes, dans un premier temps, dont 17 avec poursuite judiciaire, 17 personnes physiques et 10 personnes morales. C'est-à-dire que les autres sont dans une procédure administrative
dans les entreprises.
Bien sûr. Bon. Alors, quel est le rythme? À quel niveau se trouve maintenant l'affaire au niveau de la justice? Vous voudrez bien accepter que nous puissions, nous-mêmes qui voulons prôner la démocratie, respecter le principe de la séparation des pouvoirs. Je ne sais pas vous dire à quel niveau se trouve l'instruction, à quel niveau se trouve la procédure judiciaire, parce que sinon ça serait une ingérence non autorisée par la Constitution de l'exécutif dans le travail du judiciaire. Alors, du côté des immeubles et terrains de l'État, là, il y a des cas où c'est même plus facile, parce que on peut très rapidement établir que quelqu'un occupe indûment ou a obtenu indûment un terrain ou un immeuble de l'État. Par exemple, si c'est par arrêté, on va rapporter l'arrêté, et puis on va recourir à la justice pour dire qu'il faut qu'ils déguerpissent les lieux et qu'ils avaient des certificats d'enregistrement. Ben, ça ne fait rien. Nos experts ont établi les étapes qu'il faut pour qu'à la fin, l'occupation du terrain ou de l'immeuble de l'État soit considérée comme régulière. Dès qu'une des étapes n'est pas respectée, même si toutes les autres sont respectées, alors il y a irrégularité. Et l'État est en droit de remettre en cause la décision finale, le titre de propriété final. Voilà, la détention des certificats n'implique pas nécessairement que toute la procédure d'obtention du bien, terrain ou immeuble de l'État était régulière et donnait lieu vraiment à ce droit de propriété. Voilà. Les experts ont travaillé, convoqué des gens, exigé des documents et examiné des arrêtés, examiné des actes par lesquels on a déclaré certains biens de l'État bien sans maître et on a un certain nombre de dossiers par rapport auxquels des irrégularités flagrantes ont été constatées. Donc, ce sera relativement simple.
Mais ça dure quand même assez longtemps. Monsieur le ministre, on va vous laisser continuer à répondre. Mais suivons aussi deux questions qui nous viennent de Kindou avant de revenir dans ce studio.
César Ossénou, analyste politique, j'appelle depuis Kindou au Maniema. Si il est vrai que ce détournement a eu lieu, vu l'ampleur du montant qui a été détourné, à peu près la moitié du budget, ce que nous demandons, c'est que de toute urgence, les responsables qui sont identifiés dans ce détournement soient traduits devant la justice et que restitution de l'argent détourné soit faite avant longtemps. Cette restitution doit nous être annoncée. De la même façon qu'on nous annonce ce détournement, c'est de la même façon que nous attendons la récupération au profit du trésor public.
Je réponds au nom de Amourani Aruna et je suis le chargé de programme de l'ONG IPK qui accompagne les communautés paysannes dans l'autopromotion dans les villages. Et dans le travail que nous faisons, nous vulgarisons la nomenclature des taxes et nous demandons aux paysans de payer les taxes pour que l'État ait des moyens pour payer les fonctionnaires, pour réhabiliter les écoles, pour réhabiliter les routes. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'un groupe de gens, des compatriotes, des personnalités, ont détourné plus de 1,3 milliard de dollars. Donc, environ la moitié du budget du pays. Je m'adresse au ministre Godefroy Mayobo. Je voudrais savoir comment le gouvernement et lui-même compte se de prendre pour récupérer l'argent détourné par ces Congolais que moi j'ai horreur d'appeler des compatriotes parce qu'ils ont pris environ la moitié du budget de 60 millions des Congolais. Nous insistons, il faudrait que les ministres, près le premier ministre, soit clair et qu'il nous réponde sans embâche, sans détournement, sans rhétorique, parce que nous n'accepterons pas que l'argent ramassé chez les pauvres puisse être détourné par les riches qui habitent la capitale et les grandes villes du pays. Merci.
Ces propos ont été recueillis par notre confrère Gobert Yuma Ndouani. L'argent détourné auprès du pauvre pour enrichir les riches, ça c'est un auditeur, un habitant de Kindu qui nous l'a dit, et puis que la restitution doit être faite rapidement et annoncée, tel que vous avez annoncé aussi le détournement.
Oui, moi je suis d'avis avec les premiers compatriotes là, qu'il faut que, autant que le permettent les procédures, que la récupération se fasse le plus rapidement. Ça, c'est notre souhait.
Et après combien de temps?
Je ne peux pas vous le dire, puisque ça ne dépend pas de nous. Puisque je vous ai dit que, par exemple, pour ce qui est des poursuites judiciaires, moi, je ne peux pas vous répondre, sinon alors, je serai en train de jouer la comédie appartenant au pouvoir judiciaire et appartenant au pouvoir exécutif en même temps. Ce n'est pas vrai. Donc, nous devons attendre. Parce que là, c'est la justice qui seule peut nous dire, et elle doit travailler dans la sérénité. Alors, combien de temps elle prendra pour instruire tous ces dossiers, nous ne savons pas, je ne sais pas vous le dire. En tout cas, je ne suis pas bien placé pour vous le dire. Alors, du côté administratif, c'est déjà engagé, et comme nous n'étions pas en service pendant quelques temps, nous revenons, nous saurons à quel niveau la procédure se trouve pour le moment. Et quant au deuxième compatriote, sans embâche, nous l'avons dit, le premier acte que le gouvernement fait, c'est de dénoncer. C'est d'abord d'aller contrôler et puis de repérer ces actes qui sont préjudiciables pour la nation.
C'est bien beau de le dire, monsieur le ministre, mais il y a certains auditeurs qui ne vous croient pas. Il y a par exemple Saïdi qui ne nous dit pas d'où il intervient. Il nous dit que ce sont les mêmes déclarations d'il y a 4 ans et personne n'a jamais été poursuivi. Je vous dis même courage, monsieur le ministre. On se souvient du rapport Batandeja qui avait conduit à ce que certains membres du gouvernement quittent le gouvernement. Ils n'ont jamais été poursuivis devant la justice. Il y a le rapport Lutundula, mais finalement, est-ce qu'il y a un espoir que l'État récupère un jour cet argent et même ses immeubles et terrains?
Moi, je suis ministre, membre du gouvernement. Donc, selon la constitution de notre pays, je relève du pouvoir exécutif. Et les questions que vous posez, que certains posent, je comprends l'impatience. Nous tous, nous sommes scandalisés, nous sommes choqués par ce genre de comportement dans une nation qui coupille dans la misère comme ça, qui se débat pour s'en sortir. Alors les maigres ressources qui tombent, que certains se les mettent dans les poches ou bien les négligent avec probablement des complicités en dessous pour se faire payer une partie de ce qui devait être réclamé, ça révolte, bien sûr. Mais est-ce que c'est parce qu'on est révolté qu'il faut enfreindre des règles, des lois et des principes?
Monsieur le ministre, on va assister comme dans tous les autres pays, dans les autres pays, à des procès des hommes puissants, des hommes encore au pouvoir, des ministres ou peut-être je ne sais qui vont devoir répondre devant la justice pour cause de détournement. Est-ce que ça va se passer aussi bientôt dans ce pays?
Ça doit se passer, parce que sinon notre pays sera un modèle d'insécurité juridique pour les gens qui vont.
Parce qu'on a l'impression que ici, ce sont des puissants, ce sont les moins puissants, les pauvres qui vont
descendre. C'est un jugement global et vague de l'État qui ne convient pas. Parce que là, vous questionnez un membre de l'exécutif sur ce qui relève d'un autre pouvoir. Ça ne va pas. C'est comme si moi j'étais venu pour représenter tous les pouvoirs de l'État, non.
Mais vous parlez au nom du Premier ministre.
Oui, le Premier ministre, de la politique, le Premier ministre n'est pas membre du pouvoir judiciaire. Il est membre du pouvoir exécutif.
Merci, c'est par ce mot que nous terminons cette émission. Nous vous remercions, M. Godefroy Mayobo, d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons grand merci à Guy Roger Nyampala qui a réalisé cette émission, à Paulin Mounteo qui l'a mise en onde, ainsi qu'à toute l'équipe de Dialogue en Congolais qui l'a préparé, Kéline Kouté, Tiken Koutou, Willy Akonde Jean, Didier Ogobani. Merci aussi à nos auditeurs pour leur participation nombreuse. Bonne soirée et à demain.